Nous sommes heureux de poursuivre, j'espère que ce n'est pas trop fort, voilà. Nous sommes heureux de poursuivre sur notre série sur le sermon sur la montagne. Amen. Le Seigneur ne cesse de nous interpeller, il ne cesse de nous parler de différentes manières, à travers les méditations et aussi à travers les prédications du dimanche. Et je crois qu'il va continuer, n'est-ce pas, à le faire. Amen. Amen, amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la sexualité. Alors, bien sûr, on n'a pas tout dit. Mais je crois que le Seigneur nous a parlé. Je prie que, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit notre situation, nous puissions progresser dans ces voies. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, mais j'aimerais vous parler d'une petite expérience. J'en ai pas parlé à l'origine, mais on va en parler. Ce matin. Est-ce que vous avez déjà fait du tandem? Ça vous dit quelque chose, le tandem? Alors, peut-être qu'on va afficher l'image pour ceux qui, voilà, veulent y arriver. Hein. Là, on vise l'ordinateur. Et voilà, un petit tandem. Avec des petits ballons en cœur, n'est-ce pas, hein? Est-ce que vous en avez déjà fait du tandem? Non, pas du tout. Alors, il se trouve que Laurine et moi, on en a fait. Et ça faisait partie d'un rêve. Faire du tandem. Pouvoir ensemble faire du vélo sur un même vélo, un même tandem, n'est-ce pas? Et l'idée de rouler ensemble nous était très agréable, n'est-ce pas? C'est beau, hein? Mais voilà, arrivé devant le vélo, Laurine a commencé par me dire comment il fallait s'y prendre. Et elle m'a dit que celui qui est le plus fort doit se mettre à l'arrière, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est pas ça aussi, hein? En tout cas, selon elle. Et qu'elle allait conduire, n'est-ce pas, à l'avant. Mais je crois que je me suis retrouvé plutôt à l'avant et elle à l'arrière, en réalité. Mais je n'étais pas du tout convaincu par sa théorie. Je crois que c'est la même chose, hein, par rapport au kayak, hein, n'est-ce pas, quand on est à deux places sur un kayak. Mais soit. Et je me suis vu recevoir beaucoup d'instructions. J'avoue que le début de cette expérience a été un petit peu déroutant pour moi. Et ce qui était censé être une partie de plaisir, c'est retrouver pendant le début une suite de petits conflits et de petites incompréhensions. Voilà que deux personnes qui savent faire du vélo se retrouvent sur un tandem et doivent apprendre ou réapprendre à faire du vélo, ou plus précisément, réapprendre à faire du tandem. Ça a l'air d'être simple comme cela, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas comme vous voulez pédaler comme sur un vélo classique. Pas aussi facile à faire, parce qu'il faut chercher à trouver l'équilibre entre les deux personnes qui font le tandem. Ça demande de la confiance en réalité. La confiance avec son partenaire. Et déjà pour démarrer, hein, parce que pour démarrer, il faut que Nyon qui commençait, mettez quoi en sous tandem là, et que l'autre là attende, qu'il attende l'autre là monter en les tandem, n'est-ce pas? Donc ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance entre le pilote et le copilote. Et dites-vous bien que très rapidement, il faut prendre des bonnes habitudes pour que ça marche. Sinon, l'autre là va t'y tomber. Et même chose, quand on s'arrête, ce qu'il faut se faire, c'est qu'il y en a un qui descend d'abord et l'autre descend. Si les deux descendent en même temps, problème aussi. Donc il faut observer quelques règles pour que ça puisse bien marcher. Et puis surtout, c'est que quand la vitesse commence à ralentir, il faut savoir ce que l'on fait. S'il faut aller à droite, aller à gauche, et puis savoir comment mettre les pieds. Et tout cela en coordination, n'est-ce pas? Et puis surtout, le tandem, ça devient difficile parce qu'il y a aussi le poids. Ce n'est pas le même poids que le vélo, n'est-ce pas? Donc, quand on a un tandem, il faut réagir par anticipation, plus que lorsqu'on a un vélo. pour voir le danger à l'avance. Celui qui est devant va voir le danger à l'avance, et celui qui est à l'arrière doit aussi vérifier ce qu'il y a à l'arrière pour savoir s'il n'y aura pas de difficulté. Mais tout cela en coordination. Ça signifie que quand on fait du tandem, il faut pouvoir régulièrement se parler. Faire du tandem silencieusement, je crains que ça ne soit pas possible. Et il faut toujours veiller à ne pas insécuriser, faire une sorte de mouvement brusque à l'autre personne, n'est-ce pas? Donc, c'est une école de l'écoute, c'est une école de la confiance, et ça apprend à faire les choses au même rythme. Même s'il y en a un qui, à un moment donné, va pédaler plus fort, l'autre va peut-être se reposer, mais il faut qu'on soit quand même coordonné quand on fait un tandem. Faire du tandem, on va dire, ça demande de la communication, de l'anticipation et aussi de la confiance. Autrement, zone et ni problème. Alors, qui veut faire du tandem? Le tandem peut être source de tension, de conflit, avant d'être une partie de plaisir, ça a été un petit peu notre expérience. Et de même, on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie dans des tensions, dans des conflits, alors que Dieu nous a créés pour les relations. Tout le monde dit amen. On peut perdre beaucoup d'énergie dans les tensions et dans les conflits. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer notre parcours en tant que citoyens du royaume des cieux dans le sermon sur la montagne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, est situé dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et nous avons dit depuis ces dernières semaines que dans le sermon sur la montagne, le Seigneur est en train de décrire comment doit fonctionner le citoyen du royaume. Et je dis cela pour que nous puissions bien comprendre que pour appliquer le sermon sur la montagne dans nos vies, nous avons besoin de passer par la croix. Autrement, c'est beaucoup de principes que nous ne pouvons pas appliquer. Mais si nous avons été touchés par la grâce, oui, cela est possible. Et aujourd'hui, on va voir comment ce sermon sur la montagne nous parle des conflits. Comment gérer les conflits. Amen. Qui n'a pas de conflit ici? Lève ta main. On va bénir le Seigneur pour toi. Qui n'a pas de conflit ici? Ah, parce que j'allais vous dire, si vous n'avez pas de conflit, j'allais vous dire, bon, excusez-moi, mais peut-être que la prédication ne vous concerne pas ce matin. Et si toutefois tu ne vis pas une période de conflit, j'aimerais te dire remercie le Seigneur pour ce temps de répit qu'il te donne. Amen. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, versets 21 et 26, à 26. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. Vous avez vu que la fois dernière, nous avons médité sur le texte juste après. Là, on fait un petit retour. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. C'est bon, vous y êtes. De toute façon, vous savez que, encore pour quelques semaines, il faut ouvrir à Matthieu 5 à 7. D'accord? Et puis, comme le disait Nicolas, eh bien, on est toujours au chapitre 5, hein, quand même. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raca, imbécile, dit la version semeur, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni. Alors c'est fou et imbécile. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne, l'enfer. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te juge, qu'il ne te livre au juge du moins, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Verset 26, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier 4 ans. Amen. Seigneur, éclaire-nous tout à nouveau par ta parole, ce texte que nous connaissons bien. Mais éclaire-nous et que tu nous donnes de grandir. nous pouvons dire les conflits, ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Ça nous concerne tous, Seigneur. Et je veux te prier afin que tu nous aides à grandir là aussi. Tu veux que nous soyons pleinement et entièrement des citoyens du royaume, même quand il y a des tensions. Accorde-nous cette grâce. Nous avons tellement besoin de toi parce que c'est tellement difficile parfois. Viens à notre secours et éclaire-nous par ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous, nous devons apprendre à désamorcer des conflits. Vous vous rappelez très bien de cette béatitude, la septième des béatitudes. Heureux les artisans de... Donc, un citoyen du royaume doit apprendre à désamorcer des conflits, désamorcer des conflits, comme des spécialistes là qui viennent pour pouvoir couper le bon fil. Hein. Attention, sinon ça explose. Que Dieu nous aide. Et c'est l'une des compétences, et moi, plus je grandis, on va dire ça comme ça, c'est l'une des compétences spirituelles, je crois, les plus importantes pour le chrétien, et même le serviteur de Dieu, que nous devons apprendre à développer, et qui est malheureusement rarement enseigné dans nos églises, et rarement aussi mis en pratique. Que Dieu nous aide. Parfois, ce qui se passe, c'est que nous nourrissons davantage le conflit plutôt que de le gérer. Donc, on nourrit du cochon, hein. N'est-ce pas? Soit en devenant, comme disait ma grand-mère, mal parlant, n'est-ce pas? Ou soit en explosant de colère. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, qu'un conflit non résolu peut briser non seulement notre propre cœur, mais aussi peut casser un ministère, peut casser un service. Nous devons être vigilants. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas être en harmonie avec Dieu, et ça, ce sont les paroles radicales de la première épître de Jean, qui ne cesse de nous toucher. Si nous ne sommes pas en harmonie avec les autres, nous ne pouvons être avec Dieu. Il est dit dans 1 Jean, ici. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Jean, dans son épître, dit de simples choses, mais radicales. Jean nous remet au fil à pied. Nous cherchons beaucoup d'interprétation et d'ouverture et tout, mais j'en ai clair. J'aimerais te dire que la prochaine fois que toi et moi on se retrouve dans un conflit, que ce soit dans notre foyer, dans notre maison, dans nos relations ou à l'église, j'aimerais nous inviter ce matin à essayer de pratiquer les 7 étapes que je vais donner ce matin. Les 7 étapes que je vais donner pour gérer un conflit. Et les 7 étapes pour gérer un conflit, je dirais, quand tu veux gérer un conflit, tu vas chercher à apaiser. Apaiser. Dans apaiser, il y a 7 lettres. Et nous allons utiliser ces 7 lettres-là pour pouvoir parler de la gestion de nos conflits. La première lettre, c'est le A. Anticiper pour résoudre le conflit ou pour gérer, si vous voulez, le conflit. Anticiper. Quand ça ne va pas avec quelqu'un, là, nous n'y anticipons quand. Dès lors, nous avons attendu mon envie, ou nous, n'est-ce pas? Ou dès lors, nous avons fait en 1000 ans en l'état de vie. Vous me dites, c'est pas vrai. Ah, oh, ça va. Il fait moins ça. Et résultat, nous ka bas conflit à chaîne plutôt nous arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La personne qui vous parle est concernée. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Ou encore, il est dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Anticipe. prend l'initiative. C'est ce que la Bible nous dit tout simplement. N'attendons pas que l'autre vienne à nous. Et ne faisons pas comme s'il n'y a pas de conflit. Parfois, on est champion pour ça. Tout va bien. Ça va. Vous savez, quand un jeune couple, c'est-à-dire que là, ils sont vraiment sur leur petit nuage, n'est-ce pas? Quand ils s'habituent à fuir leur conflit pour rester un petit peu sur leur petit nuage, je m'en dis, parce qu'on voit que quelque chose n'est pas clair, mais il y a des conjoints qui se disent, mais non, c'est pas ça. Et puis on essaye de passer. Parfois, ce sont des petites choses, mais ça grossit. Parce que peut-être qu'on n'a pas reçu l'éducation pour pouvoir apprendre à dire les choses dans la vérité, dans l'amour. Et donc, on se dit, bon, ça va aller. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force, c'est comme les étiquettes. Hein? On colle des étiquettes, et puis en l'air, ça a fait un modèle de bagaille, et puis ça a explosé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que nous devons apprendre à anticiper quand quelque chose n'est pas clair. Et apprendre à prendre l'initiative pour dire les choses. La Bible est claire. Soyons des pacificateurs dans la 7e béatitude. Verset 9. Chapitre 5, verset 9. On ne résout jamais les conflits de façon accidentelle. Il est clair. Non, non. C'est toujours de façon intentionnelle. On ne peut pas dire ça qui fait fête. Et puis ça qui va arriver. Et espérer que les choses doivent se régler. Je veux penser à un père qui est en difficulté avec ses enfants. N'attends pas que les choses puissent se régler. Prends l'initiative. Va. Offre des ouvertures pour essayer de renouer le contact. Nous ne pouvons pas attendre que les conflits se règlent de façon accidentelle. Tout ce que nous avons à faire est de façon intentionnelle. Que Dieu nous aide. Amen. Alors bien sûr, disons-le tout de suite très clairement, anticiper pour gérer un conflit, prendre des initiatives, ça demande du courage. Ça demande, on va le voir tout à l'heure aussi, de l'amour, mais on va le voir tout à l'heure. Mais déjà dans un premier temps, du courage. Parce que parfois, la seule envie qu'on a, c'est soit d'exploser sur la personne, ou soit de fuir. Et puis, pas dire rien. La Bible est claire dans Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et donc, dans la fenêtre de tir qui nous appartient, peut-être pas de tir, ça ne va peut-être pas marcher quand même. Dans la part de responsabilité que nous avons, faisons notre part. La Bible dit que l'amour, le vrai amour, nous donne le courage de dépasser nos craintes. Vous connaissez bien ce passage. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. L'amour n'est pas dans la crainte, du moins n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc si nous-mêmes nous bénit courage pour aller, pour prendre l'initiative et lui grâce pour Dieu. Amen. C'est-à-dire faire notre part, anticiper, prendre. Donc la première lettre, apaiser ici, c'est anticiper pour résoudre le problème. Passons maintenant à la deuxième lettre. P. Prendre notre part de responsabilité. Est-ce que vous savez ce que sont les angles morts quand vous conduisez votre voiture? Est-ce que ça vous donne une petite idée? Vous savez ce que c'est? Vous êtes attentif aux angles morts? Oui, ça va? Moi, je dois avouer, je ne suis pas toujours attentif. Je ne suis pas toujours attentif aux angles morts et parfois, pénal l'autoroute quand on veut changer de direction. Mais il faut être attentif. L'angle mort d'une voiture, c'est la zone qui est inaccessible au champ de vision du conducteur. C'est ça au parc à ouais, parce que quand il y a des douvants, ou quand on a des rétroviseurs au milieu A, ou quand on a des rétroviseurs gauche, droite, et puis quand on fait un petit coutier, mais dès là, il faut qu'on fait un coutier plutôt latéral. Pourquoi ça qui fait? L'angle mort se trouve derrière donc, les côtés du véhicule. Et vous savez qu'un 3% des accidents mortels sont dus à un angle mort. 10% des accidents mortels des piétons sont dus à un angle mort. 3% des accidents mortels d'usagers de... Mon grand-père disait sandwich auto. C'est-à-dire nos motocyclistes, là. N'est-ce pas? 3% des accidents mortels d'usage des deux roues motorisées sont dus à un angle mort. Et 8% des accidents mortels des cyclistes sont dus à un angle mort. Vous vous rendez compte? Les angles morts en voiture peuvent être fatales, mais dans nos conflits aussi, nous avons aussi nos angles morts. Nous pénalisons à 99%, n'est-ce pas? Et l'autre là n'y raison peut-être à 1%, mais pas 5%. Mais il y a un angle mort quelque part. L'autre personne peut être responsable, peut-être, c'est parce que ça nous permet ouais, à 99%. Mais nous devons aussi reconnaître humblement que nous avons tort à 1%. Et Jésus même le dit dans le sermon sur la montagne, mais il donne un autre sens. Il donne un sens opposé à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ici, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 4, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Parfois, les 99% de temps sont de l'autre côté, mais nous pas kawaii. C'est-à-dire, on a une grosse poutre qui devient invisible pour nous. Nous avons tous des angles morts. Et nous devons tous nous occuper de nos angles morts avant de passer à autre chose. Et ce sont ce qu'on va appeler des angles morts relationnels. C'est-à-dire des attitudes dont nous n'avons pas conscience, mais que nous répétons sans cesse. Et ce qui se passe, c'est que souvent, c'est quel que soit l'endroit où on se trouve. On répète les mêmes choses. Moi, je me suis retrouvé parfois à avoir les mêmes difficultés dans deux groupes différents. Et c'est facile de dire, mais c'est mon nom, pas qu'à comprendre rien. C'est pas vrai. Angle mort. On ne se rend pas compte de nos attitudes qui impliquent les mêmes choses. Et qui fait qu'on se retrouve avec les mêmes personnes désagréables. Alors que ce sont des personnes différentes que tu nous aides. On se retrouve avant les mêmes types de conflits, quel que soit l'endroit où on est. C'est pas normal. Quoi changer côté, on n'a ni même problème. Est-ce toujours la faute des autres? Si tu as l'impression de rencontrer les mêmes problèmes, quel que soit l'endroit où tu es, c'est le signe qu'il y a des angles morts relationnels. Et c'est gentil de le dire comme ça, parce que je le répète, Jésus parle d'une poutre qui est dans notre vie. Je ne sais pas. Moi, chaque fois que je réfléchis à cette image, je dis, mais quand même, Jésus, c'est pas logique. Comment avoir une poutre dans le angle mort? Et je crois que commencer à reconnaître nos angles morts et dire à l'autre, je suis désolé, ça commence à réchauffer des relations qui peuvent être glacées. Parfois, on ne reconnaît pas tout, mais on peut commencer à reconnaître certaines choses. Et ça peut, ça qui glaçait moi en glaçant, peut commencer à réchauffer. Et pourquoi avec la salle commencer à couler? Amen. Et l'image est belle, n'est-ce pas? Des fois, les larmes ont besoin de couler aussi. Que Dieu nous aide. Parfois, nos relations se retrouvent bouchées comme ça, coincées, quand on ne fait pas le premier pas, n'est-ce pas? Donc, pour apaiser un conflit, la première étape, c'est de commencer par anticiper pour résoudre le conflit, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est prendre sa part du conflit, accepter de voir les angles morts. Passer à la troisième étape. Attentionner à la douleur de l'autre. Alors, dans les conflits, j'ai observé une chose. Quand quelqu'un est blessé, il va aussi blesser d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand on est blessé, quand on blesse quelqu'un, il y a des chances qu'on va aussi... Comment dire ça? Que cette personne va aussi blesser d'autres personnes. Donc, à blesser un monde, on a blessé un autre monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faisons attention. Et c'est une vérité importante à retenir. Et je veux prendre appui aussi sur ce qui nous est dit dans notre passage aujourd'hui. le fait de se mettre en colère contre son frère, mais aussi de l'appeler racaille. Je crois que si Jésus nous interpelle, c'est que attention à ce que nous disons. Cela a l'importance. C'est pour ça que Jésus dit vous pouvez passer devant monsieur le juge. Attention, on se mérite d'être puni par le feu de la géhenne, verset 22. Comme le dit le texte du jour. Si quelqu'un me fait ou te fait du mal, c'est parce que quelqu'un a blessé parfois cette personne. Et peut-être que cette personne qui a été blessée, c'est peut-être moi qui l'ai blessé finalement. C'est peut-être toi qui l'as blessé. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un te blesse parce qu'il a été blessé. Mais peut-être c'est vous-même qui blessez. Vous comprenez? Tu ne sais pas. Jacques chapitre 1, le verset 19, nous dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, deux oreilles et une bouche. Pourquoi? C'est un message qui est simple. Écouter deux fois plus que parler. Un message qui est simple. Peut-être qu'il m'a un peu compris, mais peut-être pas encore. Mais dans quel sens? Un message qui est simple. Nous devons écouter deux fois plus que nous parlons. Et c'est la clé pour désamorcer nos conflits. Lorsque nous écoutons les blessures de l'autre, la douleur de l'autre, quand nous nous concentrons sur les émotions du cœur, sur les doutes, sur les peurs, vous savez, tout conflit avant d'être des faits, ça dit, il fait mal ça, il fait mal ça, oui, maintenant, oui, il fait mal ça. Ce sont des émotions. C'est-à-dire, je me sens seul, je me sens triste, je me sens diminué. Être à l'écoute des émotions, c'est quelque chose qui est capital. Parce que parfois nos émotions, comme j'ai mal le dire ici, c'est que nos émotions sont comme des vichys, sont comme des alarmes. Parfois elles se basent sur des a priori qui sont totalement faux, hein, on est d'accord. Mais elles sont des vichys, elles sont des alarmes. Et il faut commencer par elles. Il faut commencer par elles. Parce qu'une émotion qui ne s'exprime pas, et sur laquelle on a du mal à mettre des mots, qui n'est pas entendu, qui n'est pas pris en compte, peut exploser ou tout simplement peut faire du mal à petit feu. L'expression des émotions a une grande importance. Parce qu'elle nous permet souvent de déterminer quels sont les enjeux réels d'un conflit. Tant qu'on est sur « il fait moi ci, il fait moi ça, il fait... » Mais quand on comprend que derrière, c'est le sentiment d'avoir été seul, le sentiment de la tristesse, ou le sentiment d'avoir été diminué, on va au cœur du sujet. On va au cœur du sujet. Est-ce que vous me suivez ce matin? On prend l'exemple d'un couple. Un couple, et ça ne vous concerne pas, bien sûr, qui est en conflit à cause de la vaisselle, n'est-ce pas? Qui n'est pas faite. Ça, c'est le conflit apparent, n'est-ce pas? Mais derrière, souvent, ça c'est le fait que la vaisselle n'est pas faite, et puis c'est pas normal, et puis la maison est propre, et puis c'est toujours ça comme ça avec toi. Vous savez, dans un couple, mais pas que, dès qu'on utilise des adverbes, ça craint. Dès qu'on rajoute des toujours, des jamais, ça craint. Il faut retirer les adverbes. Parler avec justesse. D'accord? Voilà. Ça c'est un thème que notre frère va aborder peut-être. Mais il a déjà fait en réalité. un couple en conflit à cause de la vaisselle, en fait, peut-être qu'il y a un manque de considération pour l'épouse. C'est peut-être que, comment dire, peut-être que l'épouse se sent mal considérée. Et peut-être que le mari, lui, se sent un sentiment de contrôle ou toujours des témoins simplement fait. Et puis, chacun a son sentiment. Et puis ça explose, et puis on parle des faits, et puis on est capable d'aller très loin. Mais oui, mais il y avait ça aussi, et puis tu n'as jamais fait ci, et puis tu n'as... Vous êtes d'accord avec moi? Expérience vécue peut-être. Ce qu'il faut avoir, c'est que les émotions nous permettent d'aller au cœur du sujet. Et souvent se cachent les réels enjeux, et c'est là où le Saint-Esprit a besoin de nous visiter. C'est là où nous avons besoin d'apprendre à les exprimer. L'image est... Voilà, faute de temps, je n'ai pas mis l'image pour vous, mais c'est l'image de l'iceberg. Vous savez que l'iceberg, on ne voit qu'à peu près 10% de l'iceberg. N'est-ce pas? Vous savez ça? Alors bien sûr, les Algériens sont très loin de nos contrées, on est d'accord avec ça. Mais quand on voit un conflit, il y a au moins 90% qui est invisible à l'œil nu. N'est-ce pas? Et la partie hors de l'eau, ce sont les faits. Mais la partie immergée, ce sont les émotions, les sentiments, les souffrances, les colères, l'humiliation, peut-être la fierté, peut-être l'orgueil, peut-être le désir de vengeance, la peur, le dégoût, le sentiment d'exclusion. Bref, on pourrait en faire une liste très grande. Et souvent, ces émotions sont omniprésentes et sans qu'ils soient traités, ils vont toujours créer sans cesse des conflits. Parce qu'on va toujours être dans l'incompréhension. La Bible dit dans Psaume 26, je ne l'ai pas noté, verset 2, « Sonde-moi Seigneur, mets-moi à l'épreuve, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Nous avons besoin d'être au clair sur nos émotions. On va voir un petit peu, et j'espère que j'aurai le temps. Oui. On va voir, est-ce qu'on est qu'à la troisième? On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire aussi. La Bible dit aussi, alors, je l'ai mis ou pas, Romains chapitre 15, verset 1 à 2, et je lis à partir du verset 1. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, au lieu de faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui lui plaît, ce qui plaît à son prochain, en vue de ce qui est bon et constructif. Dans la Nouvelle Bible, ce bon. Ici, moi je comprends aussi être attentif aux faiblesses de l'autre, c'est être attentif aux émotions dans un conflit, porter les faiblesses, c'est-à-dire choisir de faire du bien à l'autre. Ça c'est une vraie gestion du conflit, et c'est là où ça devient constructif. Donc on revient sur ce qu'on a dit pour apaiser les conflits, il y a quoi? Il y a anticiper, n'est-ce pas? Anticiper pour pouvoir prendre l'initiative, aller vers l'autre, mais aussi prendre notre part de responsabilité, accepter nos angles morts, et puis la troisième, c'est être attentionné à la douleur de l'autre. Nous avons mal, oui, mais l'autre aussi a mal. Est-ce qu'on est attentif à la douleur de l'autre? Quatrième point, ici. Intégrer le point de vue de l'autre. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est deux hommes qui vivaient dans un petit village et qui se retrouvent dans une dispute terrible et qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et ils ont décidé donc de parler au sage de la ville, du moins. Ils vont aller voir le sage, celui qui est en mesure de tout régler, qui a la sagesse. Et ils vont vers cet homme. Et le premier homme va se rendre dans ce lieu. Le sage lui raconte vraiment la version de tout ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a fini, le sage lui dit, tu as tout à fait raison. Oui. Et la nuit suivante, le deuxième homme, qui aussi va voir le sage, lui raconte la version de son histoire, et le sage répond aussi, tu as tout à fait raison. Et là, l'épouse du sage ne comprend pas, et elle a même, je dirais, un peu bousculé son mari. Elle dit, mais ces deux hommes t'ont raconté deux histoires différentes, et tu leur as dit tous les deux, ils ont raison. Mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Et vous savez ce qu'il a répondu à sa femme? Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si la méthode de ce sage est efficace, mais ce que je sais, c'est que dans un conflit, chacun a ses raisons et chacun a sa logique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, quand nous sommes en conflit, on ne voit pas les choses du même point de vue. Et nous choisissons volontairement d'être aveugles du point de vue de l'autre, de ses motivations qui sont peut-être justes, mais que malheureusement nous pouvons avoir des a priori négatifs. Au contraire, nous avons tendance à juger l'autre. S'il fait ci, s'il fait ça, c'est voilà, il fait ça pour faire mal. Vous savez, on ne sait pas grand-chose. On peut tirer des interprétations, mais on ne sait pas grand-chose. Et souvent, il faut le reconnaître avec humilité, on l'interprète mal. Il n'y a pas très longtemps de cela, comment dire, par rapport à, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais par rapport à une personne que je devais, comment dire, je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais un a priori sur quelqu'un, et je me suis dit, mais jamais cette personne ne va me contacter pour me demander de l'aider. Et j'en étais vraiment persuadé. Et je me rends compte peut-être que j'en étais persuadé pendant des années. Parce que dans ma tête, je me dis, cette personne pense que je ne suis peut-être pas à la hauteur de pouvoir l'aider. Et je trouve qu'en la contactant pour une autre personne, avant que je puisse lui exposer la raison pour laquelle je l'appelle elle, pour lui demander de l'aide pour l'autre personne, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux m'aider pour ça? Et franchement, j'étais vraiment impressionné de ça. Nous avons, et j'ai demandé pardon au Seigneur, nous avons souvent des a priori négatifs sur les personnes. Ou pas en tête, nous n'avons pas ça. Choisis l'a priori positif. Et si une vieille idée d'un c'est problème. Toi, choisis de simplement te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En tout cas, le Seigneur m'a interpellé. Parce que je ne pensais vraiment, vraiment pas que cette personne allait me demander ce qu'elle m'a demandé. Je pensais que qu'elle pensait que je n'étais pas à la hauteur de ça. Souvent on ne sait rien et on interprète mal. Souvent c'est notre souffrance, notre colère, peut-être le fait qu'on se sente humilié, on a peur, le dégoût. Tout ça, c'est plutôt ça qui nous anime. Que le Seigneur nous aide. Nous devons faire très attention à la manière dont nous traitons les autres personnes. Avec nos a priori négatifs. En fait, ce qui se passe, quand je dis intégrer le point de vue de l'autre, c'est que nous regardons nos besoins et nous disons, voilà comment la personne devrait fonctionner à mon égard si elle me respecte. Nous regardons de notre côté. Mais je crois que, clairement, l'Évangile nous pousse à regarder aussi de l'autre côté. D'être conscient de nous-mêmes, c'est vrai. Mais ne pas nous omnibuler que de notre côté. Autrement, on ne va pas loin. Que Dieu nous aide à être attentif. Si l'autre a besoin d'attention, si j'ai besoin d'attention, si j'ai besoin d'être reconnu, si j'ai besoin d'être accepté, l'autre en a aussi besoin. Que Dieu nous aide. Ce matin, c'est avec très très tremblement que j'exprime tous ces mots. Pour la simple et bonne raison qu'un conflit peut arriver à n'importe quel moment. La sortie là, il y en a. Et que nous sommes tous concernés. Amen. Et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et que parfois, on prend souvent des mauvais chemins. Parce qu'on a des a priori négatifs sur les personnes. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes malheureusement, naturellement égoïstes. Nous prêtons avant tout attention à nos besoins plutôt qu'à notre. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Et que rien n'échappe à Dieu. La Bible dit, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Bon Dieu connaît-nous. Bon Dieu savent. Et si bon Dieu connaît-nous, bon Dieu, c'est Dieu qui juge. Amen. C'est Dieu qui juge nous. Amen. Lorsque nous réalisons que Dieu nous connaît parfaitement et répondra à tous nos besoins, cela nous libère, chers frères et sœurs, pour nous concentrer sur le besoin des autres. C'est comme ça qu'on grandit, que Dieu nous aide. Alors on a dit quoi? Le A, c'est apaiser, anticiper pour résoudre les problèmes. Le B, c'est prendre notre part de responsabilité. Le A, c'est être attentionné à la douleur de l'autre. Et le 4, intégrer son point de vue aussi. On a ce pas de côté à faire, que Dieu nous aide. Le 5e point ici, c'est s'exprimer avec tact. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire moins qu'à 10, ça m'a avancé? Qui on est, qui on est? Souvent, c'est avec une forme de fierté qu'on parle ainsi. Parce qu'il y a le désir d'être franc, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui veulent être franches et elles disent tout ce qui passe dans leur esprit. Mais est-ce que c'est tout ça qui t'a passé en tête ou vous dit? Moi, je dirais que ce n'est pas de la franchise, mais c'est de l'immaturité. Mais ça, C'est une prédication que j'avais donnée il y a quelque temps déjà, pour ceux qui s'en souviennent. Beaucoup de personnes ont besoin juste d'une dose importante de tact, de douceur, et tout ça imprégner l'amour pour dire la vérité. Et rassurez-vous, votre serviteur qui est en face a besoin aussi de sagesse en la matière. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit qu'il sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Quand nous parlons, nous ne disons pas juste des choses pour nous faire du bien. Quand nous parlons à des personnes. Donc la question c'est, est-ce que ce que je vais dire, ça va être utile à la personne? Ça va l'aider? Est-ce que ça va construire? Est-ce que c'est une parole qui construit? La question, c'est pas de savoir si c'est la vérité, simplement. Mais est-ce que c'est une parole qui construit? Si c'est une parole qui ne construit pas, pas dit. Amen. Un signe de maturité. Dire les paroles au bon moment, quand il le faut. Et une personne mûre contrôle sa langue. Amen. Donc, il ne suffit pas de dire la vérité. Mais il faut dire la vérité dans l'amour. Parce que tout simplement, quand on dit la vérité dans l'amour, on donne à cette vérité l'enveloppe tout simplement de l'amour pour que cette vérité puisse être acceptée. On doit montrer à la personne que l'on aime. Et parfois, ce n'est pas simple. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est rien de ça. Voilà. Et peut-être que le Seigneur m'attend au tournant, juste après, ta prédication. Rien de simple en ce matin. Mais alléluia, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et le sermon sur la montagne devient applicable pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Alors, nous l'avons vu s'exprimer avec tact, avec douceur et dire la vérité. Anticiper pour résoudre le problème, prendre sa part du conflit, être attentionné à la douleur de l'autre, intégrer le point de vue de l'autre, mais aussi s'exprimer avec tact, c'est-à-dire dire la vérité. Est-ce qu'on peut passer au sixième? Explorer profondément la question plutôt que de corriger l'autre. Alors là, parfois quand deux personnes veulent régler un problème, il n'est pas rare qu'après avoir eu une première rencontre, et ça c'est l'expérience, probablement qu'a tiré toujours. Ils se sont vus, hein, ils ont parlé. Alors peut-être parfois ça a explosé ou parfois ça n'a pas explosé, mais parfois le problème dure toujours. Et je me dis, mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on veut régler un problème avec quelqu'un, il faut savoir ce que l'on veut faire. Il faut savoir qu'est-ce qui nous motive. Quand on est en conflit, et quand le conflit est chaud, et vous pouvez le dire, ça bouffe beaucoup d'énergie émotionnellement. Et on peut être épuisé. J'aimerais dire ici qu'il faut faire des choix entre le fait d'utiliser son énergie pour gérer le conflit, pour exprimer son émotion, comme on l'a dit tout à l'heure, pour écouter l'autre, n'est-ce pas? Pour écouter les émotions de l'autre, pour s'ouvrir aussi au pardon, pour s'impliquer, pour trouver des solutions qui soient correctes pour l'un et pour l'autre. Soit on peut faire ça, ou soit on peut prendre son énergie pour corriger l'autre. Est-ce que vous me suivez? Pour le remettre en cause, pour le critiquer, pour dire, « Mi a tiens dans manquer tout, ça vous fait. Mi a tiens dans manquer régler où. » Hein, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y en avait pas à comprendre. N'est-ce pas vrai? Parfois, c'est ça. Hein. On veut régler, mais c'est parce qu'on a des choses à dire à la personne. Mais on n'est pas prêt forcément à écouter. Qu'est-ce qui est le plus important? Écouter l'autre ou bien régler l'autre, comme on dit dans le clément. N'est-ce pas? Corriger. Qu'est-ce qui est le plus important, selon vous? Je crois que gérer le conflit et aborder ce temps de rencontre, c'est comment on va pouvoir être tiré tous les deux vers le haut et pas rabaisser l'autre et pas l'écraser. Comment on va laisser la place au pardon? Comment ce qui nous a fait mal va pouvoir s'exprimer sans chercher à écraser l'autre? Amen. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous savez, si on n'est pas au clair sur ça, on va toujours relancer le conflit. Quand on essaye de corriger l'autre. Et puis, qui Qui m'a demandé pour corriger le plan? Qui sommes-nous? N'est-ce pas? Nous sommes tous sur notre chemin. Tous sur notre chemin de maturité, n'est-ce pas? Et on a tous besoin d'apprendre à grandir. Ça, vous savez, c'est quand non seulement on se rappelle que l'autre est image de Dieu comme moi-même, mais c'est quand on voit aussi la grâce extraordinaire de Dieu pour mes propres péchés, pour mes propres limites, qu'on peut accorder la grâce à l'autre. Amen. Donc si on veut régler un conflit et que l'on annonce à l'autre qu'on ne va pas changer d'avis, je crois qu'on ne va pas avancer bien loin. Que Dieu nous accorde de ne pas chercher à corriger l'autre, mais à créer le lien, à créer le contact. Et j'aimerais dire que l'apôtre Paul nous dit tout ce qu'il ne faut pas faire pour envenimer un conflit. Vous voyez, dans Colossiens chapitre 3, verset 8, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Je pense que si on veut régler un conflit, déjà, il y a des règles simples. Si on veut avoir contact avec la personne, on va commencer par dire, on va aborder un seul sujet à la fois. Parce que si nous craquons en migant, nous pas, nous l'aboitons. Donc, déjà, un problème à la fois. On ne parle pas de plusieurs choses en même temps. Ensuite, celui qui va parler, il va être écouté jusqu'au bout. On ne va pas l'interrompre. N'est-ce pas? Et puis, il y a un problème, un principe tout simple, c'est apprendre à reformuler ce que l'autre a dit. Ça peut être très mécanique, mais très important aussi. Parce que lorsqu'on redit avec nos mots ce que l'autre a dit, on commence à faire le pas de côté et à essayer de comprendre l'autre là où il en est. Donc reformuler, répéter avec ses propres mots pour avoir le point de vue de l'autre. Et surtout ne jamais attaquer l'autre avec des tu. Des tu qui tuent. N'est-ce pas? Choisir de dire le je. Je ce que je ressens. Amen. Ok. Et toujours dans tout cela, toujours être ouvert à l'esprit du pardon. Toujours être prêt à cela. Amen. Est-ce qu'on peut passer au dernier point? Et pas le moindre. Réconcilier et pas forcément accorder. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Quelle différence il y a entre réconcilier et accorder? Dans réconcilier, il y a plus l'idée de ramener les personnes en bonne entente, de rétablir un contact, un lien entre elles. Et dans accorder, ça voudrait dire qu'elles sont d'accord sur le même sujet. Vous voyez la différence? Lorsqu'on choisit de se réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout. Sinon, autrement, il y a toujours un qui cherche à dominer l'autre. Sauf si, effectivement, on peut être d'accord, finalement, ça arrive. Mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Il y a une grande différence. La réconciliation se produit lorsque nous cherchons une bonne entente pour rétablir la relation, le contact. Le fait de s'accorder signifierait plutôt qu'il n'y aurait jamais de désaccord. Non, on doit apprendre à vivre nos désaccords tout en restant en lien. Amen. Parce que nous avons des personnalités différentes et des expériences de vie différentes. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner sa langue cette fois avant de parler quand quelqu'un parle. Parce que la personne parle de là où elle en est et de sa position, de ce qu'elle ressent, de son vécu, de ses souffrances. L'amour que le Seigneur nous pousse à écouter l'autre dans tout son ensemble. Amen. Donc nous pouvons avoir une relation amicale et aussi avoir des différences. Et vous savez, nos différences, nous disons et nous proclamons qu'elles peuvent être des richesses, mais parfois, les nous captons comme bagaille là, pied pour tête, les différences deviennent comme des moyens, des sources de division. Elles ne deviennent plus des richesses. Parce que dans nos différences, peut-être que l'un va se sentir supérieur à l'autre, ou bien l'autre va se sentir inférieur à l'autre. Et quand on commence comme ça, ça ne va pas bien. Que Dieu nous aide dans nos différences à ne pas nous sentir l'un supérieur à l'autre. Que Dieu nous aide à être des artisans de paix. Et j'aimerais terminer ainsi. Les conflits font partie de la vie et aussi de la vie d'Église. En fait, nous sommes tous comme sur un tandem. et on a besoin de communication, d'anticipation et de confiance. Amen. Devant un conflit, on peut soit choisir de l'ignorer, ou soit choisir d'exploser, ou soit choisir de nourrir le conflit par toutes sortes de manières. Mais nous pouvons aussi faire le choix de laisser le Seigneur nous utiliser pour résoudre le conflit. Amen. Nous laisser pénétrer par l'esprit du pardon. En choisissant d'apaiser. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est ainsi qu'on choisit de glorifier le Seigneur.